le président de l'Assemblée, justement, qui est avec nous ce midi pour parler moralisation de la vie publique. Bonjour Marcel Touyani.
Bonjour.
Alors, l'actualité politique a été marquée la semaine dernière, notamment par les débats à l'Assemblée nationale sur la loi pour la moralisation de la vie publique. Il y a une semaine, on annonçait ici même les quelques nouvelles règles, notamment applicables aux élus de l'Assemblée. Concrètement, qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour l'Assemblée, à la fois pour votre cabinet et pour les représentants à l'Assemblée ?
Ce qui a été débattu principalement à l'Assemblée nationale et pour ce qui relève de ces interdictions à l'Assemblée de la Polynésie française, c'est l'interdiction dans le cabinet du président de recruter des membres de la famille proche. Il n'y a pas eu d'extension en ce qui concerne les mêmes interdictions applicables aux députés de la nation au niveau des représentants de la Polynésie française. Simplement une quelques précisions en ce qui concerne les activités de conseil. Un représentant qui n'avait pas l'année qui précède son élection une activité de conseil ne peut prévaloir à cette activité de conseil pendant sa mandature, entendons-nous bien sûr que l'activité de conseil ne se résume pas uniquement à une activité professionnelle telle qu'un avocat, c'est également lié à une patente, une prestation de conseil auprès d'une structure, d'une société en activité en Polynésie française. Donc voilà ce qui a été débattu en métropole et étendu en Polynésie française, ce qui relève bien sûr du cabinet du président de l'Assemblée, mais également des cabinets du président de la Polynésie française, mais également des membres du gouvernement,
des ministres. Il n'y a pas donc d'interdiction d'embauche familiale pour les représentants à l'Assemblée. Il y a des restrictions tout de même. Élodie en parlait il y a quelques instants. C'est-à-dire qu'il est impossible, en tout cas, l'attribution des crédits collaborateurs pour les enfants d'un représentant sont plafonnées.
Oui, exactement. Comme le règlement intérieur de l'Assemblée le prévoit, et notamment son article 75 qui dit ceci, lorsque le représentant recrute son enfant, son conjoint ou son concubin, le montant de l'ensemble de leur salaire et des charges sociales et fiscales y afférentes ne peut excéder la moitié du crédit collaborateur, le montant qui a été à l'instant annoncé par Élodie, à savoir de 525 000 francs pacifiques.
Alors Marcel Touyani, qui contrôle exactement le bon suivi de ces règles à l'Assemblée ?
Alors, il y a bien sûr des dispositions qui relèvent du contrôle du président de l'Assemblée, prenant par exemple l'activité des collaborateurs. Il y a encore quelques années, il n'y avait aucun outil de contrôle des collaborateurs. Ce qui est intéressant en tous les cas, c'est que je peux dire que le fonctionnement et le contrôle des collaborateurs est mieux organisé à l'Assemblée de la République française que c'est le cas aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et pourquoi ? Parce que l'Assemblée de la République française fait l'objet d'un contrôle par la Chambre territoriale des comptes, ce qui n'est pas le cas à l'Assemblée nationale et au Sénat. Nous avons pu observer dans le cas des élections présidentielles un certain nombre de dérives en matière de recrutement des membres de famille de députés. Pour ce qui est de la Polynésie française, Élodie l'a indiqué, il y a un plafonnement, il n'y a pas d'interdiction, il y a un plafonnement de rémunération. En revanche, pour ce qui est de l'activité des collaborateurs, l'article 22 du règlement intérieur prévoit que chaque représentant est responsable de l'activité d'un ou de ses collaborateurs. Le représentant est responsable. J'assure le contrôle. Mais bien évidemment, le représentant est responsable dans la mesure où le collaborateur n'exerce pas les tâches pour lesquelles il a été recruté. En plus, en fin d'année dernière, j'ai également introduit une nouvelle disposition qui prévoit que les présidents de groupes politiques et le cas échéant les représentants non inscrits déposent chaque année au président de l'Assemblée et au questeur un rapport relatif à l'activité de leurs collaborateurs et ceux de leur groupe politique. Nous allons voir véritablement au fond du contrôle qu'exerce aujourd'hui l'institution en ce qui concerne l'activité des collaborateurs. Encore une fois, je rappelle simplement qu'il n'y a que deux fiches d'activité à l'Assemblée de la République française relevant du recrutement des collaborateurs. Le secrétariat et l'activité de rédacteur, c'est-à-dire l'activité de conseil au bénéfice des élus. Il s'agit bien sûr de bien organiser ces activités des collaborateurs et de s'assurer qu'il n'y ait plus de dérives comme nous avons pu l'observer il y a quelques années encore.
Alors ça c'est pour les embauches familiales. Est-ce qu'il existe une obligation de déclaration pour les représentants, notamment pour savoir s'ils ont des activités de conseil ? Est-ce qu'ils sont obligés de le dire et de venir vous le rapporter ?
Vous savez, j'ai envie de vous dire que le législateur métropolitain a souhaité le faire, non pas dans le dos du législateur polynésien, mais de manière forcée. Certainement, organisé, je l'espère, et qu'il appartient aux représentants de l'État de s'assurer de ce contrôle. aujourd'hui. J'ose espérer en tous les cas que les moyens sont organisés, mais comment voulez-vous aujourd'hui que le président de l'Assemblée exerce directement une activité du contrôle du représentant ? Il y a quand même, je dirais, une certaine liberté, un certain détachement dans les responsabilités qui incombent à un représentant à l'Assemblée et du président de l'Assemblée que je suis.
Donc ça veut dire que ce contrôle, c'est uniquement la justice qui peut l'exercer, il n'y a pas de contrôle de l'État ?
Le représentant de l'État.
Donc la justice aussi, enfin le haut-commissaire ne peut pas contrôler toute l'activité des
les actes relevant de la collectivité reposent sur le contrôle du représentant de l'État. Lorsqu'il y a une anomalie, à ce moment-là les magistrats interviennent. Rappelez-vous encore une fois que lorsque la chambre territoriale des comptes a eu à relever certaines anomalies, certains élus sont aujourd'hui sous le coup d'une décision judiciaire, mais également la justice, s'il s'agit de détournement de fonds publics, le représentant rentre dans un processus où il est dans l'obligation, bien évidemment, de faire valoir les décisions qu'il a pu prendre à un moment donné.
Allez-y.
Donc, encore une fois, pour répondre simplement à cette question, le contrôle relève des autorités de l'État en ce qui concerne les pratiques des représentants.
Alors, justement, sur la justice, deux enquêtes préliminaires ont été lancées ces dernières années. L'une vous concerne, en tout cas concerne le secrétariat général de l'Assemblée. L'autre porte sur des embauches familiales chez des élus de l'Assemblée, des élus RMA, plus précisément. Est-ce que vous avez des informations sur la suite de ces enquêtes ? Est-ce que vous avez été interrogé, entendu sur ces affaires ?
Entendu dès le départ, ensuite il n'y a pas eu de suite particulière. Je reste dans l'attente éventuellement d'une nouvelle convocation ou d'une suite à donner à ces affaires. Effectivement, j'ai eu à relever certaines pratiques que j'ai pu constater en matière de recrutement à l'Assemblée, des doubles contrats réalisés au sein de l'institution, soit au titre d'un recrutement d'un collaborateur, soit au travers des groupes politiques constitués qui bénéficient de dotations financières. Pour ce qui relève des affaires des emplois fictifs au secrétariat général de l'Assemblée, dans laquelle je suis directement concerné, j'attends des éléments plus précis de la justice, à savoir si ce qui a été fait relève d'une sanction judiciaire. Donc je me soumets encore une fois et entièrement à ce que fait aujourd'hui la justice.
Merci Marcel Touyani, on va marquer une courte pause, on se retrouve pour la suite de notre interview juste après.
Radio 1, premier sur l'info, grand format.
Retour dans le grand format avec Antoine Samoyau.
Merci Thierry, on reprend ce journal grand format de la rédaction avec notre invité, le président de l'Assemblée, Marcel Touyani. Marcel Touyani, vous avez écrit la semaine dernière à l'Assemblée nationale, au Sénat et au cabinet de la ministre des Outre-mer pour regretter qu'il n'y ait pas eu de débat en Polynésie sur la loi sur la moralisation de la vie publique. Ça n'était pas une obligation, mais vous pouvez être saisi. Est-ce que vous avez eu des réponses depuis ?
Non, je n'ai pas eu malheureusement de réponse au courrier que j'ai adressé au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, et j'ai tenu à informer la ministre des Outre-mer des démarches qui étaient les miennes. J'ai considéré simplement que l'article 9 de la loi organique qui prévoit la consultation préalable de l'Assemblée sur tout projet de loi ou qui introduit, modifie ou supprime des dispositions particulières à la Polynésie française méritait une consultation de notre institution. Donc, je trouve dommage que mes courriers n'ont pas obtenu réponse, du moins un accusé de réception, et expliquer les procédures qui ont été retenues par le législateur métropolitain.
Vous dites que vous auriez voulu qu'il y ait un débat à l'Assemblée justement sur ces sujets. Vous trouvez que c'est un sujet qui manque dans le débat public en Polynésie française ?
Mais bien sûr, lorsqu'on parle de moralisation de la vie publique, donc de la vie politique en quelque sorte, il s'agit bien sûr de fixer les limites dans lesquelles les hommes politiques s'exposent à l'opinion publique et la manière dont on doit exercer une forme de transparence. Et il était légitime, dès lors où il y a des dispositions qui s'appliquent en Polynésie française, encadrant justement l'activité des élus de la Polynésie française, que le débat ait lieu au sein de l'institution. Permettez-moi de vous donner lecture d'un propos qui a été tenu par le représentant de l'État hier, et qui dit la chose suivante, mais de façon plus générale, je ne peux que vous répéter ce que je vous ai dit l'an dernier. Ne souhaitez rien. Ne proposez rien qui puisse apparaître ou interpréter comme une volonté d'affaiblir l'exécutif du pays. Est-ce là une attitude qui consiste à moraliser la vie politique ? En ce qui me concerne, en tous les cas, je voulais souhaiter...
C'est les déclarations, on rappelle, de René Bidal lors de l'ouverture du Congrès des communes.
Hein. Exactement, devant les maires, des mêmes propos ont été tenus l'année dernière, ont été tenus à nouveau cette année. Je trouve que nous ne sommes plus dans la moralisation de la vie politique, nous nous écartons loinement. Je doute même aujourd'hui que nous sommes véritablement dans notre statut d'autonomie. Ces propos m'inquiètent fortement.
C'est-à-dire que vous trouvez que le commissaire va trop loin dans ce qu'il déclare sur ce que vous analysez en cette phrase, c'est qu'il dit en fait ne parlez pas trop des affaires qui fâchent, c'est ça l'idée ?
Ce n'est pas son rôle. de tenir ce genre de propos. Si l'exécutif polynésien considère que les élus communaux, à titre d'exemple, vont trop loin dans leurs revendications, il appartient à l'exécutif polynésien d'établir un rapport avec l'ensemble des élus polynésiens pour voir justement de quelle manière la collectivité peut évoluer, peut grandir, mais surtout parler d'une seule voix auprès de notre partenaire de l'État. Nous souhaitons encore une fois construire cette Polynésie. Nous souhaitons construire les mains dans la main, mais certains n'ont pas, nous invitons à nous taire en quelque sorte.
Alors, est-ce que ce pays assez marqué, notre pays, par les affaires judiciaires touchant des élus, les affaires politico-financières, celles d'emplois fictifs notamment, est-ce que, selon vous, il faut aller plus loin justement dans les règles de moralisation de la vie politique en Polynésie?
Alors attention, lorsqu'il s'agit d'aller plus loin, l'exposition doit bénéficier, me semble-t-il, quand même d'une certaine protection de l'élu dans l'exercice de sa fonction et de son mandat. Encore une fois, je n'ai rien contre la moralisation de la vie politique, encore une fois, et il est important que nous, en tant que portant un mandat de la population, nous puissions à un moment donné rendre des comptes à la Polynésie. N'oublions pas quand même que nous vivons, nous fonctionnons et nous prenons des décisions qui s'appuient sur la participation et la solidarité polynésienne et nationale en ce qui concerne les deniers publics. À ce titre, je suis totalement favorable à cette transparence, mais faut-il à un moment donné quand même se fixer certaines limites, parce qu'il faut quand même que le représentant puisse exercer pleinement et de manière, je dirais, normale et avec autant, avec toute la sécurité nécessaire, le mandat pour lequel les Polynésiens lui ont confié.
La proposition qui a été faite par Motei Brotherson lors de sa campagne pour les législatives d'interdire à un élu de se présenter à une élection pour donc les élus condamnés pour une atteinte à la probité, vous y seriez favorable?
Alors sur ce point-là, il se pose le problème de l'exécution de la peine. Lorsqu'une juridiction, quelle qu'elle soit, prononce une peine d'inéligibilité à titre d'exemple et que la personne retrouve, je dirais, ses droits et lui donne la possibilité de se retrouver la totalité de ses capacités et notamment à exercer des responsabilités politiques, je trouve quand même qu'il faut être prudent en la matière. Là encore une fois, il faut laisser, et c'est l'esprit me semble-t-il de la démocratie, la liberté de choisir les représentants que les Polynésiens souhaitent avoir pour conduire le destin de ce pays. Il faut à un moment donné que la souveraineté de la population puisse s'exercer, la sanction finale revient à la population. Oui. Donc soyons prudents sur les limites qu'il faut fixer à cette transparence.
Alors justement, la participation, on le voit, est en baisse hein, sur les dernières élections, ici également. Vous pensez que cette réalité, comme on peut le dire, correspond à un ras-le-bol de la politique qui peut justement naître des affaires judiciaires qui touchent régulièrement des élus?
Mais bien sûr. Bien sûr, et pas que les affaires judiciaires. Je dirais également les comportements. Ce n'est pas uniquement ceux qui ont été condamnés qui sont, je dirais, les éléments qui font que les électeurs ne viennent plus participer à la vie d'un pays. Faire de la politique, c'est faire acte de gestion. C'est faire acte politique, mais c'est aussi faire acte de responsabilité. C'est comme ça, en tous les cas, que je perçois la mission qui est la mienne, et j'ose espérer que d'autres également participent à cette lecture des choses, mais c'est les comportements également des élus que nous sommes qui sont à l'origine, je dirais, de cette défection, et que les Polynésiens ne viennent plus, sont en perte de confiance vis-à-vis de la classe politique.
Est-ce que vous passez un message, est-ce que vous essayez de dire aux électeurs que vous rencontrez qu'il faut continuer à croire en la politique, et comment est-ce que vous le dites?
Oui, il faut continuer à croire à la politique, parce que c'est quand même la politique qui fait évoluer les sociétés dans le monde. Et j'invite encore une fois les Polynésiens à participer à cette vie politique polynésienne, mais surtout à s'exprimer. Et il est important que l'ensemble des Polynésiens viennent s'exprimer et fassent valoir leurs attentes vis-à-vis des politiques que nous sommes, ce qui revient encore une fois à m'interroger sur le propos que le commissaire a tenu, en nous invitant à être très prudents sur les déclarations que nous pouvons faire. C'est de bonne gestion de s'exprimer, c'est de bonne gestion de revendiquer un certain nombre de choses dès lors où la revendication est raisonnable pour l'intérêt général et l'intérêt de la population. Donc, j'invite la population à participer à la vie politique de ce pays, en s'exprimant et en réclamant ce qu'ils sont en droit d'avoir aujourd'hui.